On est très très heureux d'être ici en direct et en public des Utopiales. Merci au public qui est incroyablement nombreux ici dans ces Utopiales, ce festival international de la science-fiction. Bienvenue à tous. Vous êtes sur France Culture avec nous jusqu'à 13h30. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, des mots, des sons, des algorithmes et des hommes, quel langage pour quel monde, existant ou restant à inventer, comment peuvent-ils nous aider à penser notre monde et à imaginer des mondes nouveaux? Nous sommes en direct et en public des Utopiales de Nantes, le festival de science-fiction qui se tient actuellement et jusqu'au 4 novembre. Plaisir de recevoir deux invités de grande voix entre réel et fiction. Alain Damasio, tout d'abord, écrivain, ses lecteurs attendent depuis 15 ans un nouvel opus de l'auteur de la cultissime Horde du Contrevent, une patience récompensée cette année avec Les Furtifs, paru aux éditions La Volte, dont il proposera une lecture en musique ce soir à 20h30 avec le groupe Palo Alto qui compte en son sein Jacques Barbéry, invité de Mauvais Genre de François Angelier, émission de samedi pour les auditeurs enregistrée ici même à 14h30 pour les festivaliers des Utopiales. Bonjour Alain Damasio.
Bonjour.
Vous êtes ici chez vous, hein. C'est votre royaume, les
Utopiales. Ah oui, je suis un peu à la maison, là. Oui, les Utopiales, c'est la maison pour les écrivains de SF.
Ouais. Bon, ben, plaisir d'accueillir un petit nouveau, Gilles de Weck, avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Informaticien et philosophe qui s'est fait connaître avec les métamorphoses du calcul il y a 10 ans, puis reconnaître il y a 3 ans avec le temps des algorithmes, et qui nous revient avec Ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire, paru cette année aux éditions Le Pommier. Ce professeur à l'École Polytechnique et chercheur à l'Institut National de Recherche en informatique et en automatique, il faut du souffle pour y arriver, l'INRIA, pour qui les langages nous permettent d'aller plus loin dans l'invention de notre humanité. On y vient, Gilles de Weck, vous êtes aussi l'homme qui parle aux machines, paraît-il. Les festivaliers ont pu en avoir le cœur net hier, c'était la promesse de cette rencontre organisée par le festival. Ils pourront vous retrouver demain pour une table ronde à 10h sur le thème « La vérité en science, en loi et en littérature ». Coder, décoder, c'est donc le thème de cette nouvelle édition des Utopiales, Alain Damasio. Pour vous, c'est d'abord un éloge de la traduction.
Un éloge de la traduction, je ne sais pas. En tout cas, c'est un éloge du travail de l'écrivain de science-fiction qui pour moi, a vocation à essayer de décrypter le présent. On parle beaucoup d'anticipation. En réalité, on a un code devant nous qui est la société, qui est le monde, qui est la politique. Et on essaye de le décoder à notre façon, de le décrypter, d'en sortir les signaux faibles et aussi les tendances lourdes et ensuite de les mettre en scène et en récit dans nos livres. Donc il y a un travail de décodage assez important à faire et qui est long et c'est pour ça que je mets 15 ans à faire mes livres un peu parce que ça prend beaucoup de temps de sédimenter et d'orpailler tout ça pour ensuite en produire un décodage littéraire.
Décodage et de décodage, parce qu'il faut aussi peut-être parler votre langue, l'apprendre pour mieux vous comprendre, et c'est le plaisir que peuvent avoir vos lecteurs, Alain Damasio. Quand on pose cette question à Gilles de Weck, du codage et du décodage, coder, décoder, c'est l'informaticien ou le philosophe qui se met en branle et qui va répondre à ce que ça comment il interprète ces mots-là?
Bizarrement, l'informaticien et le philosophe vivent dans le même cerveau, donc il n'y a pas deux homoncules qui savent répondre deux choses différentes. Ce que j'ai voulu souligner dans ce livre, c'était que le monde dans lequel nous vivions était assez différent des mondes anciens, et en particulier nous sommes la seule espèce animale quasiment, enfin bon, c'est un point qui est un peu discuté, à utiliser des langues. C'est par exemple le français que nous utilisons aujourd'hui pour parler, mais il y a d'autres langues, le japonais, le chinois, l'espagnol, mais également nous sommes une espèce qui depuis quelques millénaires, mais surtout depuis quelques décennies, utilise énormément de langages. Donc par exemple les langages de programmation sont ce qui nous permet aujourd'hui de construire le monde. Mais j'ai cherché dans ce livre à montrer qu'il y avait une profondeur historique de cette notion de langage et qu'on pouvait retrouver des langages il y a déjà 5000 ans, alors pour des langages beaucoup plus rudimentaires, ou il y a 400 ans quand nous avons décidé d'inventer le langage des adresses. C'est-à-dire nous avons décidé d'arrêter de dire que Sherlock Holmes vivait dans la Maison Blanche avec deux appliques noires qui se trouvent au sud-est de Regent Park, mais nous avons inventé un langage et nous avons dit qu'il habite 221B Baker Street. Et donc ça, c'est une manière d'écrire les adresses, une manière de dire les adresses, qui est totale, qui ne permet que de dire les adresses, mais qui permet de les dire d'une manière beaucoup plus efficace, et que c'était un peu ça, le monde dans lequel nous vivions aujourd'hui.
L'ophtalmo a aussi inventé un langage pour vous permettre d'aller chez votre opticien et commander cette paire de lunettes.
Voilà, donc si vous avez, comme moi, des lunettes, vous avez dû un jour voir une ordonnance. Donc vous savez, par exemple, que les parenthèses indiquent que vous êtes astigmate. Si vous n'êtes pas astigmate, il n'y a pas de parenthèse dans l'ordonnance. Et voilà, donc ça, on est dans une situation où l'ophtalmo, plutôt que d'utiliser la langue, c'est-à-dire de faire un beau discours pour l'opticien, eh bien, invente un langage, un code que seul l'opticien sait décoder. Et on pourrait dire la même chose de la musique. Depuis le XIIIe siècle, on utilise un code, un langage pour écrire la musique. Et en fait, toute la musique jusqu'au XIIe siècle, on l'a quasiment perdue parce que nous n'avions pas de moyens de communication avec les générations futures. Et donc, à quoi ressemblait la musique du XIe siècle? Personne ne sait. À quoi ressemblait la musique du XIIIe siècle? Tout le monde le sait.
La science-fiction, Alain Damasio, est tout sauf une langue morte. Est-ce que c'est une langue vivante, partagée, ou un langage qui reste spécialisé pour vous aujourd'hui?
Non, c'est une vraie langue vivante partagée. Maintenant, je trouve qu'il y a vraiment une vocation à essayer d'ancrer des codes propres à chaque personnage. Moi, j'écris en polyphonie, c'est-à-dire j'écris à la première personne, mais sur 6 ou 7 personnages différents. Et pour chacun, j'ai décidé de poser un langage, de poser une langue spécifique qui est fondée sur un registre de syntaxe, c'est-à-dire sur un écoulement de la phrase très particulier qui peut être haché, qui peut être ondulant, qui peut être spiralant. Sur un ensemble de phonèmes, c'est-à-dire une couleur de son spécifique où, effectivement, là, je vais être sur des fricatives dans certains personnages, c'est-à-dire des fe, des ve, des che, des sifflantes. Et puis, également, un registre au sens technique, c'est-à-dire de dire, bah, est-ce que je suis dans un langage qui va être particulièrement techno, de tracker optique, ou un langage qui va être très élégant, type début du XXe siècle, ou un langage argotique, ou un langage de gamer, etc. Donc tout ça, c'est des codes qu'il faut spécifier pour chaque personnage.
Et ça passe aussi par la typo. Hein.
Et ça passe par la typo aussi, en tout cas dans les furtifs.
Mais pourquoi juste Alain Damasio? Pourquoi cette nécessité d'inventer un langage à vous, ou un nouveau langage, un langage qui n'existait pas?
Il y a deux grandes raisons. C'est que, quand on bâtit des mondes, moi c'est des livres univers, donc là on est en 2040 en France, mais il faut spécifier un langage propre à ce monde-là. On a plein de mots nouveaux aujourd'hui, il en apparaît chaque année des nouveaux. Donc tu peux imaginer qu'en 2040, il y aura effectivement des néologismes particuliers. Et donc ça te permet d'ancrer une crédibilité très forte de l'univers si les néologismes sont adéquats, sont idoines par rapport à ce qu'on pose. Et puis l'autre raison, c'est le plaisir de l'écrivain et c'est la liberté que ça ouvre. C'est-à-dire que moi je trouve que plus tu ouvres le langage, plus tu crées de mots, plus tu donnes la possibilité au lecteur d'envisager une ampleur, de s'évaster comme ça dans la lecture, plutôt que de rester. Moi, j'ai horreur des livres qui sont sur du langage très commun, très quotidien, extrêmement étroit, avec très peu de variété lexicale, parce que je trouve qu'au contraire, on a vocation à ouvrir au maximum le champ intellectuel et perceptif des lecteurs.
Le langage comme outil de création et puis de libération.
D'abord pour réagir sur ce que disait Alain Damasio, tout le travail typographique, quand on lit un texte à haute voix, il disparaît d'un certain point de vue. Il est extrêmement difficile à le retranscrire par oral. Et donc on voit bien ici qu'il y a une utilisation de l'espace, une utilisation de l'espace de la feuille, qui dépasse l'utilisation du temps unidimensionnel, qui est celui de la parole et celui de la lecture. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les langages. Il y a beaucoup de langages qui sont bidimensionnels. Il y a des langages graphiques, il y a des langages où on perd cette unidimensionnalité, cette linéarité de la langue.
Et vous dites pareil finalement pour les algorithmes. L'algorithme n'existe pas, ne sert à rien sans langage pour le décrire.
Alors effectivement, on peut décrire un algorithme dans une langue naturelle. D'ailleurs, on l'a fait en gros pendant 5000 ans jusqu'à ce qu'on invente les langages de programmation. Mais on s'aperçoit que à la fois si on veut communiquer l'algorithme à une machine, mais également si on veut écrire un algorithme plus complexe qu'un simple algorithme pour chercher un mot dans un dictionnaire ou pour faire une addition ou une multiplication, eh bien là, on est obligé de recourir à un objet technique. Et exactement comme Alain Damasio utilise un objet technique qui est l'imprimerie ou qui est le stylo pour coucher sa parole sur le papier, on est obligé de recourir à cet objet technique. On est obligé d'inventer un objet technique en même temps qu'on invente le texte. J'ai un exemple dans mon livre, c'est celui d'Archimède, qui avait tenté une expérience de pensée un peu folle, qui était de remplir l'univers avec des grains de sable, et il voulait savoir combien on pouvait mettre de grains de sable. Et alors le résultat est un peu, enfin c'est assez hasardeux comme calcul. Mais bon, peu importe. Et ce qui est important, c'est qu'à la fin, Archimède arrive à l'idée que le nombre de grains de sable, c'est un 1 suivi de 63 zéros, 10 à la puissance 63. Et en fait, Archimède invente cette idée à une époque où les Grecs utilisaient un langage pour écrire les nombres qui allait jusqu'à 9999. Donc il est obligé d'inventer un langage pour pouvoir répondre à la question qu'il pose. La réponse à la question qu'il pose, c'est pas juste trouver quelque chose qu'on va dire dans le langage, mais il faut inventer le langage dans lequel on va pouvoir le dire.
Alors Archimède, on pourrait citer Galilée, les mathématiques, langage de l'univers, ce besoin d'inventer des langages, d'inventer des mondes qui vont aussi avec ces langages. On les retrouve bien sûr, Alain Damasio, à travers toute la science-fiction, des auteurs qui ont inventé des langues et qui ont accolé à ces langues des imaginaires, en tout cas qui ont fait véhiculer ces imaginaires par des mots nouveaux. On va écouter à travers le dictionnaire de science-fiction de Gilles Blanchard un extrait de ces quelques langages qui ont pu être inventés.
Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite.
Le secret, passer du traduire aux pensées directes, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là.
Excusez-moi de vous déranger, mais ce que vous dites, c'est qu'on sera débarrassé des derniers vestiges du goldsteinisme quand la langue sera mise au net. Je partage entièrement votre point de vue.
Deuxième temps triennal.
Absolument.
Des résultats vraiment ahurissants.
Hachieri Grise, Vidocchio, Miave, Chevi, Gasgar. Hachieri Antondre, Drivi, Dosgeiani, Mahoge, Gron, Shigiti, Mori. Najin, Mohari, Okuenigin, Mori. Hachieri Vajira, Hachi, Sandane. Vinajo, Michal, Drogo, Asaskoi, Mehasati. Sira, Giviti, Hira, Sevason.
Trois adaptations de langage adaptées donc d'œuvres littéraires au cinéma ou en série. Vous aurez reconnu Alain Damasio, Gilles Dowek, peut-être.
Seigneur des Anneaux, non?
Ouais. Avec le elfique.
Ouais, le elfique. Le reste, je sais pas.
Cette discussion entre Arwen et Aragorn, d'accord. 1984, Michael Radford, et Game of Thrones, extrait de la saison 6. Trois langages inventés. On revient sur ce que le langage nous permet de dire ou pas. Avec vous aujourd'hui, Alain Damasio et Gilles Dowek, il y a la nécessité, vous le dites, d'inventer des mots, peut-être un registre lexical qui est le vôtre, parce qu'à travers cela, Alain Damasio, est-ce qu'on peut dire que ce sont aussi des mondes que l'on recrée?
Bah absolument. C'est-à-dire que si vous posez par exemple un livre comme Les Furtifs, où à un moment donné vous avez les êtres humains qui vont s'hybrider progressivement avec cette espèce, c'est pas possible de porter le livre sans que le langage mute lui-même, s'hybride lui-même, soit tordu, soit inversé, soit modifié. Moi j'adore cette phrase que reprend qui vient de Proust, hein, les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Quand Deleuze reprend ça, il dit: ce qui est propre normalement aux grands écrivains, c'est la faculté à creuser comme ça une langue étrangère dans la langue. C'est-à-dire la faculté à réussir à trouver à l'intérieur même du français quelque chose qui va indiquer un dehors du français. C'est-à-dire qui va nous indiquer un autre monde au-delà du français familier qu'on connaît. Et pour ça, il faut se tenir vraiment à une sorte de lisière de crête qui est très difficile à poser, qui est très poétique, sur lequel ce que vous écrivez va être lisible, compréhensible. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs ce soir, où il y a beaucoup de langages mutés. Et en même temps, on sent bien que ça indique un dehors. On sent bien que ça indique une autre langue.
Qu'est-ce que c'est un langage muté?
Ah ouais, c'est un langage muté.
Qu'est-ce que c'est un langage muté?
Ah, muté, pardon, oui, excusez-moi. C'est vrai que je parle dans mon monde. Un langage muté, c'est par exemple utiliser ce qu'on appelle en stylistique la métathèse. C'est-à-dire que vous avez le mot bonté, ça devient béton. Vous avez des interversions, vous avez des troncations d'affixes ou de suffixes. Vous revenez à la racine, vous modifiez. Et donc, c'est le son qui va porter beaucoup plus que le sens. La sémantique est plus portée par le sens, elle est portée par les agencements de son, par la couleur des sons. Et donc, vous véhiculez des choses beaucoup plus sensorielles, perceptives. Un code qui est un code, j'irais presque inconscient, presque physique, qui est en dessous du code purement signifié, qui serait le langage parfait de 84, où ils disent, voilà, si on crée un langage parfait, on instruit complètement quelque chose. Moi, je suis juste pour par rapport au code exact. Moi, j'adore ce que font les programmeurs justement là-dessus, c'est que eux, ils donnent des instructions extrêmement précises à la machine pour calculer, pour faire un algorithme. Et nous, écrivains, on a une envie d'instruction du lecteur aussi, c'est-à-dire qu'on voudrait conduire le lecteur vers quelque chose, mais on a très peu d'éléments pour le faire. On a vraiment la sémantique. On a ces petites virgules, ces petits points, ces tirets longs. On a cette façon de rythmer la lecture. On a les masses des mots qu'on peut étendre ou raccourcir. C'est-à-dire qu'on va jouer sur ce que moi j'appelle l'hydrodynamique de lecture, c'est-à-dire la façon dont la lecture s'écoule. Mais on peut pas avoir l'instruction précise. On peut pas dire au lecteur, voilà, tu dois lire comme ça ce passage avec ce rythme-là, avec ces accélérations-là, avec ces ralentissements-là, contrairement à un codeur. Mais on a toujours le mythe ou l'envie profonde d'arriver à ça à certains moments, quoi. Et la typographie peut aider parce qu'elle structure la lecture, justement. Donc on est hanté par le mythe du codeur qui va, lui, dire exactement au lecteur ce qu'il doit faire ou comprendre.
Inventer des langages formels, Gilles Dohec, c'est effectivement une possibilité d'aller saisir le réel peut-être autrement, d'aller créer, ouvrir des failles dans ce réel pour s'y introduire et comprendre le monde d'une autre manière, mais aussi d'échanger avec d'autres interlocuteurs, avec d'autres hommes, d'autres peuples.
Oui, alors plus que de comprendre le réel, j'aime mieux l'expression « construire le réel ». C'est-à-dire, l'informatique n'est pas tellement une science qui investigue, qui explore le monde tel qu'il est, mais davantage une technique, en fait, qui essaye de comprendre comment construire un monde, un autre monde. Et j'utilise à dessein cette expression ambiguë de construire un autre monde, qui est une expression qui est employée à la fois dans un discours révolutionnaire et dans un discours technique, parce qu'il y a clairement une parenté entre ces deux projets de construction d'un autre monde. Mais il y a peut-être une différence avec ce que Alain Damasio explique, parce que la démarche de l'écrivain consiste à inventer quelque chose de nouveau en partant d'un langage, en partant d'une langue qui existe. C'est-à-dire, il part du français et il construit un idiolecte à partir du français en creusant le français comme il le dit. Il y a une démarche qui est un peu duale, qui consiste à partir de l'extérieur et à essayer d'inventer un langage à partir de rien. Et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, alors bien sûr quand on raconte ça, comme il y a des millions de raisons qui se sont un jour combinées, on raconte toujours un peu une fausse histoire. Donc ce que je vais vous dire, c'est un peu une fake news. Donc voilà, comment j'ai eu l'idée d'écrire ce livre? Eh bien, j'étais à Grenoble dans un musée d'automates et il y avait un automate qui jouait un air à la flûte. Et je me suis dit, voilà, il jouait J'ai du bon tabac. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il joue pas J'ai du bon tabac, mais au clair de la lune? Et finalement, dans le mécanisme de l'automate, où est J'ai du bon tabac? Où est l'air J'ai du bon tabac? Est-ce qu'il y a une partition, par exemple? Et donc, le gardien, le responsable du musée qui nous faisait visiter, a ouvert l'automate. Et là, on s'aperçoit qu'il y a à l'intérieur de l'automate une pièce qui a une forme assez baroque. Et en fait, c'est quand on déforme cette pièce qu'on change l'air. Donc il y a une seule pièce, en fait, où est codée la musique. Et là, en voyant ça, je me suis dit, je suis en train de voir naître sous mes yeux, dans un objet de métal, un signe, un symbole, une lettre qui a une signification, à qui le reste du mécanisme donne une signification. Et c'était un peu cette apparition sous mes yeux d'un langage qui émergeait de rien, qui émergeait de la matière, qui m'a fait prendre conscience de l'importance de cette notion de langage. Donc on est vraiment dans des démarches qui sont pas antagonistes, mais qui sont vraiment très différentes. L'une qui part de la langue et qui essaye d'inventer quelque chose d'autre, et l'autre qui part de rien et qui essaye d'inventer quelque chose. Donc et puis finalement, peut-être qu'on a abouti à des choses qui ne sont pas si différentes l'une de l'autre.
J'aimerais qu'on parle un peu, puisque vous avez mis en marche l'automate, Gilles Dohec, Alain Damasio aussi, du son comme, comme langage, le son qui est constitutif des furtifs, hein, ces êtres de chair et de son que vous avez imaginés, des êtres de métamorphose sortis d'un sein mélodique, de cette mélodie fondamentale. La musique, le son, du coup, vous, vous la percevez comment ? Comme un langage de résistance, un langage parallèle à celui des mots ?
Oui, moi, j'ai vraiment, c'est pour ça que j'adore la radio et j'adore être à la radio plutôt qu'à la télé, parce que j'ai vraiment toujours le sentiment que la vision est quelque chose d'instantané, d'immédiat. C'est un espace, la vision. Et le temps s'y écoule pas. Alors que le son n'est audible que dans une durée. Et donc, il y a un mouvement, il y a une émotion qui va se créer par cette durée. Et moi, j'ai vraiment le sentiment dans nos sociétés qui sont extrêmement optiques, même panoptiques, omnivisuel, que par rapport à ça, de passer par l'auditif, de passer par l'oreille, de passer par la construction des images que permet l'écoute d'un son, que permet l'écoute d'un mot ou même d'une voix. Quand vous écoutez une voix, si là vous fermez les yeux, vous allez devoir imaginer celui qui la profère, vous allez devoir imaginer le monde que je suis en train de vous construire par les mots. Et donc, vous êtes vraiment dans l'activité émancipatrice et personnelle de fabrication d'images. Alors que si l'image vous est déjà donnée, pour moi, ça réduit la capacité d'invention, de libération, de création intérieure. Et je trouve ça beaucoup plus mobilisant cognitivement d'écouter que de voir. Voilà. Et je trouve qu'on est trop saturé d'image et que l'image a été extrêmement bien contrôlée par la publicité. Et pour moi, dans ce livre, il y a vraiment une lutte entre son et image, le son étant perçu comme un vecteur libérateur.
Et on contrôle beaucoup moins facilement les émotions provoquées par le son.
Moi, il me semble que la voix, par exemple, est un portrait intime de la personne beaucoup plus puissant que simplement de voir la personne. Il me semble, hein, mais moi, c'est ma perception. Ouais.
Est-ce qu'il faut réécrire ce livre que vous signez cette année, Gilles Douek, ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire, peut-être un tome 2, ce dont on ne peut parler, il faut le mettre en son,
il
mettre en musique.
Chanter.
Ouais.
Il faut le chanter. Oui, bien sûr.
Allez-y.
Une question qui se pose en musique, c'est que la notation qu'on a inventée au XIIIe siècle, et dont je vous ai dit tout le bien que j'en pensais, maintenant je vais vous dire tout le mal que j'en pense, c'est qu'elle elle nous contraint.
Vous êtes un être instable. C'est le règne de la fake news.
Oui,
avec
oui,
vous,
c'est
ça.
C'est cette émission qui m'a transformé. Et la notation musicale, le langage des partitions, nous contraint à écrire par exemple des notes l'une après l'autre. Et il y a un certain nombre de compositeurs, par exemple Gheorghi Ligeti, qui au XXe siècle a dit la notation musicale telle qu'elle existe ne me convainc pas, ne me suffit pas, parce que je veux faire des glissandi, je veux faire autre chose, je veux exprimer des sons, je veux enregistrer des sons, je veux produire des sons qui ne s'écrivent pas dans la notation musicale. Et donc il n'est pas le seul, Pierre Schaeffer a fait la même chose, et d'un certain point de vue, si on va plus loin que Pierre Schaeffer, on ne peut pas écrire le bruit que fait une locomotive dans la notation musicale. Le son d'une locomotive, on ne peut pas l'écrire dans la notation musicale, et c'est pour ça qu'il y a tout un courant de compositeurs, après Pierre Schaeffer, qui a essayé de se passer de cette notation. À l'inverse, la démarche de Ligeti est peut-être plus intéressante, parce que Ligeti a dit, mais si ce langage ne nous convient pas, eh bien, c'est à nous d'en inventer d'autres. Et donc, Ligeti a inventé une nouvelle notation pour la musique qui lui permet d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Et ça, pour moi, c'est vraiment une démarche importante, à savoir que si vous prenez un langage et que vous restez dedans, eh bien, vous en êtes prisonnier. Si vous prenez un langage et que vous le transformez, à ce moment-là, ce langage lui-même devient pour vous un facteur de libération.
Gilles Douek, Alain Damasio, on va faire une petite leçon de son en deux sons. D'abord un son signalétique, ça s'appelle un jingle en radio, et c'est pour moi le moment de vous annoncer qu'il est 13h19, que vous écoutez France Culture, qu'on est en direct et en public, ça on va pouvoir vous le prouver dans quelques secondes, des Utopiales de Nantes, avec vous deux, Alain Damasio, écrivain, romancier à l'occasion cette année de l'apparition de vos furtifs, et vous, Gilles Douek, informaticien, philosophe, pour ce dont on ne peut parler, il faut l'écrire, qui vient de paraître aux éditions Le Pommier.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Son 1 et maintenant son 2, un son de Résif qu'Alain Damasio va nous présenter, parce que Les Furtifs, votre roman, est accompagné d'un projet sonore, un projet phonophore même, avec 42 pièces sonores que vous avez pensées avec vos complices. On écoute le son et je vous donne la parole.
«
Alain Damasio.
Oui, là, on a écouté, vous le savez pas, mais on a écouté un furtif de réseau. C'est-à-dire que dans le délire qu'on avait sur les furtifs qui vivent donc dans l'angle mort de toute vision, il y avait l'idée que les ondes Wi-Fi, les ondes radio, FM, AM, les ondes électromagnétiques, tout type d'ondes dans lesquelles nous sommes immergés, là on est immergé dans un bain d'ondes sans le savoir, que ces ondes en se croisant finissaient par générer des êtres qui s'appellent des furtifs de réseau, donc des résifs. Et on avait fait un travail sonore pour faire entendre ces résifs. La pièce dure, je sais pas, 4 ou 5 minutes, créée par Florian Pochon, comme tous les furtifs qu'on a fait. Ce qui est intéressant, c'est que moi, ce travail préalable, parce que ça a précédé le roman, je l'ai fait en 2014, ce travail préalable sur l'univers sonore du livre m'a énormément nourri et aidé à écrire le livre. Ça m'a permis d'ancrer justement l'imaginaire sur quelque chose de physique, qui était le son de ces furtifs. On a des furtifs de papier, on a des furtifs de bois, de métal, donc de réseaux électriques, de néons. Enfin, il y a énormément de types de furtifs. Et j'aimais bien cette idée, voilà, qu'enfin ce croisement d'ondes allait donner naissance non pas à une espèce de glabibulga, mais à un être comme ça rythmique qui pourrait exister, qui pourrait. Et c'est ce qui expliquerait, vous savez, quand vous avez des problèmes de connexion ou que le débit passe mal, c'est en fait un furtif qui s'insinue et qui s'interstitie.
Voilà, il y a les furtifs de papier ou les furtifs d'écume, et puis il y a peut-être des sons de ville. Alors quels sons feraient, et on l'a pas à portée de main, donc vous allez peut-être pouvoir essayer de l'interpréter, Alain Damasio, le son d'une ville libérée.
Waouh. Bah d'abord, c'est ce qu'on va entendre un peu ce soir, c'est le son de l'émeute, c'est le son des animaux qu'on réentend, mais c'est aussi tous les sons urbains que moi j'adore, les sons de freinage, du bruit de l'essieu, du pneu, le bruit des tout petits bip bip des smartphones, tout ce qu'on entend dans une ville, tous ces sons complètement humains qu'on a créés et qui créent une forme aussi de musique, de mélodie. Quand tout d'un coup vous arrêtez dans la rue et puis que vous cessez de voir, tout d'un coup tout ça monte et s'articule ensemble. Et c'est notre monde, voilà, c'est notre force. Donc moi j'aime beaucoup aussi ces... Et les furtifs les récupèrent beaucoup, ils font beaucoup de leur sonique, c'est-à-dire qu'ils utilisent par exemple un son de freinage pour vous obliger comme ça à vous retourner derrière. Et quand vous retournez, ben vous n'avez pas vu qu'il est passé devant. Donc il y a beaucoup de travail de l'heure par le son chez les furtifs.
Et le son de la ville d'Orange.
Ah, on entend une orange pressée comme ça, ce soir.
Je crois pas.
Non, mais dans la ville d'Orange, donc celle que je délire, il y a énormément de capteurs, de senseurs, etc. Donc on est sur des sons extrêmement ténus, crissants et techno. Donc c'est ça la ville d'Orange.
Voilà, c'est cette ville de demain qu'on espère, pas pour demain, où nos vies sont à forfait. Données, traces, contrôle, comment réagir, faut-il fuir? Vous parlez et mettez en avant Alain Damasio dans ce roman Les Furtifs, ces angles morts où les furtifs se réfugient, qui sont leur lieu de vie, et appelez aussi peut-être nous, lecteurs, nous, citoyens, dans nos vies, à essayer de trouver des endroits refuges comme ça dès aujourd'hui.
Ouais, complètement. C'est vrai que ça a toujours été une sorte de, enfin, ça devient un mythe aujourd'hui, c'est à se dire où sont les blind spots, où sont les vrais angles morts, où sont les endroits où vous ne serez plus géolocalisés, où sont les zones blanches, où sont les comment devenir intraçable, comment avoir encore ce miracle d'être intraçable, sachant qu'on produit de la trace en permanente dans ces réseaux informatiques où on circule, sachant que chaque smartphone est triangulé par des antennes et que ça devient extrêmement difficile d'être anonyme, ça devient extrêmement difficile de voilà, de circuler, de fuir à travers un système qui est parfaitement quadrillé, qui produit malgré nous tout un ensemble d'informations. La Smart City qu'on nous vend, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est l'Internet des objets. C'est des objets qui vont prendre dans le monde réel de l'information sur vous, par des capteurs, par des senseurs. Il y en a énormément qui sont produits. Et par rapport à ce monde qu'on nous annonce comme cajolant, nous choyant, fluide et pratique à vivre, ne jamais oublier qu'on vous prive aussi de beaucoup de degrés de liberté dans ces existences-là. Donc, essayer de trouver la furtivité aujourd'hui, c'est quand même un sacré enjeu, c'est une sacrée difficulté. Ouais.
Lunette adresse, Gilles Dewec, on a parlé de ces langages spécialisés, on a évoqué le langage du son aussi à travers la partition musicale. On n'a pas parlé de l'odorat qui est aussi présent dans Les Furtifs d'Alain Damasio, qui est un langage peut-être primaire, mais incodable jusqu'ici. Et on pensera bien sûr au bébé avec la mère, le père et tout ce qui peut se transmettre à travers ces parfums-là. Est-ce que pour vous, il va falloir inventer de plus en plus de nouveaux langages, peut-être plus généralistes, pour pas non plus s'enfermer entre communautés à l'avenir?
Oui, peut-être juste une réaction sur ce que vient de dire Alain Damasio. Je ne crois pas qu'il faille chercher les blind spots, les lieux aveugles. Il faut les construire. Et nous avons aujourd'hui des moyens extraordinaires de construire par nous-mêmes, par nous-mêmes ces lieux. Par exemple, si nous choisissons d'utiliser des logiciels libres, des logiciels propriétaires, nous créons nous-mêmes un lieu, alors qui n'est pas un lieu de totale intraçabilité, mais qui est un lieu où la traçabilité est moindre. Et moi, ce qui m'inquiète davantage, ce n'est pas le fait que nous soyons observés par des machines, c'est que tout le monde trouve ça bien. J'ai fait une intervention une fois devant un public un peu, alors sans doute moins éduqué que celui des utopiales, mais
est-ce qu'on trouve ça vraiment bien ou est-ce qu'on n'a pas le choix?
Non,
on est passif peut-être par rapport à ça.
On trouve ça vraiment bien. Je proposais une dystopie. C'était une conférence sur l'éthique, donc je proposais une dystopie. Je disais voilà, aujourd'hui on a les moyens techniques. À chaque fois qu'un bébé naît, de séquencer son ADN, on le met dans une base de données. Quand il y a un crime, on récupère une trace d'ADN et on retrouve le criminel. Donc j'ai dit c'est formidable, mais il faut trouver les quatre problèmes que ça pose. Bon, et donc il y a la question de la sécurité, il y a la question purement philosophique du contrôle de soi, il y a la question de la destination à long terme. Donc il y a tout un tas de raisons de ne pas le faire. Mais à la fin de la conférence, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit mais moi votre histoire de ficher tout le monde, je trouve ça merveilleux. C'est dans ce monde-là que je souhaite vivre. Et j'ai dit, voilà, on a un problème, non pas parce qu'on a des bases de données, on a un problème parce qu'on a des gens comme ça. Et ces gens-là, ils existent, et ils ont le droit d'exister, après tout. Son opinion, elle est aussi légitime que la mienne. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut faire un vrai travail pour essayer de construire ces endroits, ces lieux de liberté.
Voilà, la technologie, ça dépend ce qu'on en fait, mais c'est aussi difficile aujourd'hui, Alain Damasio, de réussir à la mettre de côté et à la repousser.
C'est pas la mettre de côté, c'est l'utiliser à son propre bénéfice. C'est ça qui est important.
Juste, il nous reste... Une minute.
D'accord. Donc, je réponds pas à votre question.
Si, alors,
je réponds à votre question.
Mais normalement, oui. C'est toujours mieux de répondre d'abord à la question avant de prendre des chemins de traverse.
Désolé, vous
n'avez...
Il est très furtif, en fait.
Oubliez ma question. Il ne reste vraiment même pas deux minutes. C'est la première fois que vous vous rencontrez tous les deux. S'il y avait une question, Gilles de Wey, que vous aviez envie de poser à Alain Damasio, laquelle serait-elle?
Que faites-vous chaque matin pour gagner un petit peu de liberté?
J'essaye d'arriver le plus tard possible sur mon écran. C'est ça la progression que j'arrive à mettre en place. C'est avant, je me levais, je déjeunais et c'était direct sur l'écran. Et je retarde au maximum ce temps-là, quoi.
Et Alain Damasio, si vous aviez une question à poser à Gilles de Wey, celle que vous aimeriez poser?
Moi, ça m'intéresserait énormément sur les codes. C'est-à-dire de comparer le code informatique à l'écriture elle-même, quoi. Et j'aurais envie de lui poser une question parce que ça m'a toujours fasciné. C'est Mallarmé, il disait une chose complètement folle la musique n'est qu'un cas particulier de la littérature. C'est-à-dire qu'il considérait que la littérature couvrait absolument tous les champs, pouvait couvrir tout le champ musical. Qu'est-ce que ça vous évoque, voilà, simplement cette phrase complètement folle d'un écrivain lui-même extraordinaire?
Alors, je vais répondre à la question par une autre question. Nathalie Sarraute, oui, pourquoi pas. Nathalie Sarraute disait que la peinture était en avance sur la littérature parce qu'on pouvait représenter en peinture le visage d'une femme à la fois de face et de profil. Je pense qu'elle faisait référence à Picasso. Et que la littérature n'était pas encore arrivée là. Et moi, j'ai l'impression que la littérature est arrivée là. Et donc, oui, le champ de la littérature s'étend.
Merci beaucoup à tous les deux. Non, on ne peut pas relancer. Et un grand merci au public des Utopiales. Je souhaiterais remercier d'abord toute l'équipe de La Grande Table, Maya Deskovic et Oriane Delacroix qui ont programmé cette émission. Maya Deskovic qui aurait sûrement beaucoup aimé être là avec vous deux et qui nous a peut-être écoutés de l'autre côté du poste. Un grand merci aussi à Lara Dutèche-Pérez, à François Bréus et à Sophie Marty qui nous ont aidés à préparer cette émission. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec les équipes techniques de Radio France. Merci à Christian Lahondès, Alexandre James, Christophe Papon et à notre chargé de production Benoît Jégou. Merci à tous d'avoir été ici et d'avoir permis cette émission. Je vous dis rendez-vous lundi pour une nouvelle grande table. Merci aussi à Adrien Landivier et à Marie-Julie qui étaient là, qui sont présents sur les lieux. Beaucoup d'autres émissions cet après-midi à suivre de France Culture ici en direct des Utopiales de Nantes. Très bel après-midi d'ici là, tous sur France Culture.